Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye d'avoir plusieurs flèches à notre arc ou plusieurs cordes, je sais pas comment.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc.
C'est vraiment une nouvelle corde, une flèche à notre arc, une nouvelle.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Salut à tous, l'after est là comme tous les soirs de l'été. On est ensemble évidemment sur la chaîne YouTube de l'after, sur la chaîne After Télé, à la radio bien évidemment. L'after est là ce soir avec Elton Mokolo. Salut Elton.
Salut Jérôme, salut à tous.
Avec ton micro s'il te plaît Elton, ce sera plus facile.
Salut Jérôme, salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Ça le même enthousiasme la deuxième fois en plus, c'est fort.
Ouais, c'est ça qui est beau.
Ah ouais, c'est très fort.
C'est un métier. Hein.
C'est un métier, ouais. C'est un savoir-faire.
David Guzman est là également, salut David.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous et à toutes.
Bon, on va évidemment revenir sur ce Sparta-Prague Olympique Lyonnais, la défaite de l'OL 2-1, troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. On vous attend les supporters lyonnais au standard RMC, au 32-16 et puis... après le débrief, on parlera de la crise économique en Ligue 1. On se demandera si les clubs de Ligue 1 courent à la catastrophe. Gros plan également sur les ambitions de la JOCR avec notre invité, le directeur sportif David Ventier. Le point également sur la situation des Girondins de Bordeaux avant leur passage demain devant le CNOSF et toute l'actualité du mercato au programme. On démarre évidemment par les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
On commence par toi Elton, tes 3 points à l'issue de cette défaite de 1 de Lyon.
Alors
à Prague.
Pour moi, pour commencer, c'est le no-match de l'Olympique Lyonnais. Quand bien même ils ont mené, quand bien même ils ont eu la balle de 2-0, quand bien même ils ont eu le pénalty de Corentin Tolisso. Mais globalement, un no-match qui s'inscrit dans ce qui se passait lors des matchs de préparation, la défaite contre le Real Betis, contre Wolfsburg. Mon deuxième point, c'est quand même la performance du Sparta Prague. C'est quand même à signaler parce que le 2-1 ne dit pas tout de la rencontre. Et mon troisième point, c'est Paulo Fonseca, on l'avait évoqué hier, ça n'a pas loupé, encore une composition qu'on n'explique pas, qu'on ne comprend pas et qui surtout a conduit à la défaite de l'Olympique Lyonnais.
David, tes 3 points.
Premier point, les ailes de l'enfer, parce que cette composition avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et d'ailleurs qui ont énormément mis en valeur les joueurs offensifs pragois était pas du tout la composition adéquate. Deuxième point, alors positif, c'est Openda que moi j'ai trouvé intéressant, qui justifie sur son premier match le risque léger mais risque financier pris par l'Olympique Lyonnais. Et mon troisième point, ce sera Dominique Greif que j'ai trouvé très peu serein au pied et coupable sur le premier but. Donc inhabituel, mais un Dominique Greif que j'attendais moi peut-être un peu plus au niveau.
32-16 pour débattre avec nous, évidemment, les supporters de l'Olympique Lyonnais. On va commencer peut-être par la performance globale. Tu parles de non-match, Elton. C'était surtout vrai en première période, évidemment, malgré l'ouverture du score contre le cours du jeu et le but contre son camp, donc de Souchomel à la 45e minute. Bon, c'est vrai que cet Olympique Lyonnais est vraiment dans la lignée d'une préparation difficile et c'est pas à la hauteur pour l'instant. On savait que l'OL était sans doute pas prêt. On a eu la confirmation ce soir.
Ça beau être des matchs amicaux, mais les matchs amicaux nous avaient déjà indiqué ce qu'allait entre guillemets se passer ce soir. On avait déjà évoqué, après la performance contre le Real Betis, la problématique du standard technique qui est trop décevant, la problématique du manque de pressing, la problématique notamment des choix d'hommes, et ça n'a pas loupé. Et ce soir, en fait, la compo, c'est un aveu d'impuissance par rapport à la réalité des matchs de préparation où il n'y a pas une équipe type qui s'est dégagée par rapport à des problèmes physiques, par rapport à des problèmes notamment de nouvelles recrues qui devaient arriver qui ne sont pas forcément prêtes. Je fais référence à Bistrup. Et donc tout ça a amené...
qu'il n'était pas là, on n'a même pas parlé.
Exactement, et tout ça a amené justement à avoir une compo expérimentale avec De Carvalho qui est ressorti, c'était son premier match depuis l'hiver dernier. Et en face, tu tombes sur une équipe qui a déjà du temps de jeu, qui est déjà engagée dans son championnat. Et moi, j'ai vraiment ressenti ce différentiel. Alors oui, le Sparta Prague a perdu lors de la première journée, mais j'avais vraiment le sentiment que la complémentarité, cette idée, c'est l'école tchèque, le pressing notamment agressif, on l'a beaucoup vu sur la première période, quitte à s'exposer, et c'est comme ça qu'il y a eu le CSC, mais on a vu une équipe beaucoup plus complémentaire, beaucoup plus, entre guillemets, consciente de ce qu'elle devait faire faire sur un match aller à la maison, tandis que du côté de l'Olympique Lyonnais, on était vraiment dans cette idée de limiter la casse.
Mais elle est inacceptable en fait cette composition. Non mais la, en fait la composition et la prestation sont inacceptables et injustifiables.
Bien
c'est
sûr.
À dire que combien tu as de joueurs hors poste? Tu tentes un nouveau système, t'as 4 ou 5 joueurs complètement hors poste, tu regardes le banc, t'as 4 ailiers, donc ce qui fait que t'as toute une batterie de changements qui est inutilisable parce que t'as Duranville, Nouama, Fofana, Boudache, tu peux en utiliser que deux. De toute façon,
deux qui étaient même titulaires en préparation.
Donc t'as deux remplaçants qui sont mathématiquement quasiment inutilisables. Noah Nartey, moi, il va vraiment falloir m'expliquer ce qu'il a fait à Paulo Fonseca pour ne même pas mériter du temps de jeu sur une rencontre aussi cataclysmique. Mais je n'ai absolument pas compris ce que voulait faire Paulo Fonseca, que ce soit dans les choix d'hommes, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans l'agressivité au pressing, et il a été pris, mais là où tout le monde savait qu'il allait être pris, entre les centraux et les pistons, mais il s'est fait manger. Il s'est fait manger sans corriger, parce qu'il a corrigé à un quart d'heure de la fin, de façon beaucoup trop tardive, et dès qu'il a corrigé, on a quand même vu que le Sparta, dès que c'était un peu mis sous pression, dès que tu jouais les transitions de façon un peu plus rapide, c'était quand même rapidement mis en danger, et mis en danger par deux joueurs qui sortent de convalescence, Nouama et Fofana.
Exactement,
qui sont des excellents
oui.
joueurs. Donc franchement, on n'est pas loin du 0 sur 20 pour Paulo Fonseca, et je l'aime beaucoup.
Bah c'est marrant parce que c'est exactement ce que nous dit Teddy donc sur le numéro WhatsApp et c'est vrai que il y a ça revient beaucoup hein la Paulo Fonseca, on en parlera, c'était ton troisième point tout à l'heure, mais c'est vrai que plus globalement sur avant de parler des choix de Fonseca, ces joueurs là sont capables de faire mieux aussi.
Ah oui, ils sont capables totalement de faire mieux, mais le fait est que t'es tombé sur une opposition qui savait où elle allait te faire mal et que t'as jamais été en mesure de répondre justement à ce défi physique et à ce défi tactique. Pourquoi je dis défi tactique? Parce que à plusieurs reprises, on a vu des sorties de balles sous pression que l'Olympique Lyonnais ne maîtrisait pas. L'image de Tesman, notamment sur le raté de Mercado, Tesman qui remet un ballon plein axe parce qu'en fait, il a pas de solution. L'appel commande la passe. Et il y avait très peu d'appels, notamment sur ta première partie de terrain. T'étais en énorme difficulté. Et en face du côté des Tchèques, le football c'est un jeu émotionnel. À partir du moment où ils voient que le pressing avancé, il fait mal à l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait que pilonner. Et l'Olympique Lyonnais n'a jamais été en mesure de trouver une solution pour sortir. Ils sont sortis une fois. C'est sur le CSC. Mais pour le reste, ça a été globalement
Openda
difficile.
La frappe d'Openda en première mi-temps.
Oui, la frappe d'Openda, mais globalement, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que dès lors que t'es challengé, notamment sur ce qu'on avait évoqué après le Real Betis, ce fameux standard technique, cette capacité à te défaire de la pression adverse, t'es pas invité, même contre le Sparta Prague.
Mais Adem est avec nous au 32-16. Tu voulais dire un truc?
Non, on va laisser Adem. On va dire sur Adem.
Supporter de l'Olympique Lyonnais, vous nous appelez les supporters de l'OL après cette défaite de 2-1 au troisième tour préliminaire.
Félicitations pour la voix de l'after, Adem.
Je pense que c'est pas lui, il a 17 ans le Adem en question.
Ouais.
Salut Adem.
Bonsoir.
Salut Adem.
Salut Adem.
Bon Adem, t'es dans quel état d'esprit là?
Je suis dans un état d'esprit où en fait je suis limite content de la défaite presque. Je vais vous dire la vérité, limite content parce que le football a gagné. Honnêtement, ça a été une catastrophe absolue la première mi-temps. Moi, je vous propose de parler de Paulo Fonseca comme vous l'avez fait parce que tactiquement, c'est une abomination ce qu'il a fait. Une abomination. Et ça traduit pour moi l'incohérence, peut-être même du mercato de la direction. Quand tu prends des ailiers, comme Duranville, comme Boudache, que tu as déjà Nouama, tu as Fofana, normalement, dans un monde logique, ça veut dire que tu joues dans une équipe où tu as des vrais ailiers, non? Avec des remplaçants et avec des remplaçants possibles. Là, tu joues dans une équipe où tu as un arrière-gauche qui, pour la première fois de sa vie, va se retrouver ailier droit. Et Tolisso, qui n'a plus la vitesse du tout, qui a porté Lyon à bout de bras sur ses épaules la saison dernière, à gauche, et tu le retrouves à...
Des joueurs à contre-emploi, ouais.
Non, c'est incroyable. Derrière Metternich, mais celui...
Le match face à Alcocer, il est très très difficile.
Non, mais et Mata, moi j'ajoute Mata-Metternich.
Le
duo, c'était la zone, c'était compliqué.
Mais Metternich, Maitland-Niles et Mata, parce que moi, Maitland-Niles, en fait, ça fait déjà quelques matchs déjà que ça me saute aux yeux. C'est plus possible. Déjà, le mettre en piston, on sait qu'un piston, en fait, normalement, il a un ailier devant lui, mais sauf que Abner, il ne savait pas se placer. Donc, limite un piston, ça fait beaucoup plus d'efforts. Maitland-Niles, déjà, qu'il ne court pas pour défendre. Alors, est-ce que vous pensez qu'il allait courir pour attaquer? Maitland-Niles, il faisait que marcher tout le match, tous les ballons.
Disons que Maitland-Niles, on sait que c'est un joueur que la direction compte le sortir. C'est vrai que là, il a pas envoyé son CV, là.
Pire contexte possible, parce qu'on le sait, Maitland-Niles, on le sait, il est meilleur dans le camp adverse. Il n'est pas meilleur dans son propre camp. C'est beaucoup plus un contre-attaquant qu'un défenseur. Et ça se voit. Alors là, en plus, avec Alcocer, il a pris des vagues. Avec Arabes,
c'était travaillé.
C'était complètement travaillé, analysé.
C'est tout ce que tu veux.
Bah, je pense qu'ils ont vu Real Betis. Ils ont dit, en plus, ils ont eu de l'espionnage industriel de la part de Arabes. Ils se sont dit, voilà ce qu'on va faire. Il n'y a pas de secret.
Non, mais. Puis voilà, et puis moi je comprends pas. Moi, de toute façon, on voit le match comme le Betis. Comment tu mets pas Steve Kongo? Mais Steve Kongo, c'est un très bon joueur. Hein. On l'a vu contre le Celta Vigo, moi je trouvais qu'il était vraiment pas mal pour un si jeune joueur. Normalement, pendant que tu vas essayer de chercher un arrière droit, fais-le jouer, donne-lui sa chance.
Non mais tu l'as fait signer pro. En plus, c'est ça qui est difficile à comprendre au niveau de la stratégie du club. C'est tu t'entêtes avec Maitland-Niles. En plus, tu lui fais jouer les 90 minutes. Alors que tu as très bien vu que physiquement, je sais pas, il doit être même pas 50% de ses moyens, je pense, Maitland-Niles, tellement il avance plus. Et c'est vrai que tu signes Kongo, donc tu lui fais signer son contrat pro et tu utilises même pas une seule seconde ce soir. C'est assez incompréhensible.
Tu pouvais décaler. Mais certes, il n'était pas à l'aise dans une défense à 3, mais tu pouvais le décaler. Tu avais vraiment d'autres solutions. Moi, le seul que j'ai vraiment pas envie de condamner, parce qu'il a effectué une prestation très compliquée, c'est Ouédraogo. Mais c'est très compliqué, mais j'ai pas envie de le condamner parce qu'il vient d'Altar en première division autrichienne et c'est vrai que c'est un contexte difficile. Mais les autres, j'ai pas du tout envie de les sauver, mais pas du tout, oui, du tout.
Peut-être Openda, non, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'Openda aussi, il est venu dans un contexte compliqué là.
Moi, je l'ai trouvé bien. Franchement, je trouve que il a fait une miche de pain avec des miettes. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui a une occasion dangereuse en première mi-temps. Il a montré aux supporters lyonnais tous les contextes dans lesquels il peut évoluer et toutes les choses favorables qu'il peut apporter.
Mais pour revenir sur Kongo, ça s'inscrit dans ce qu'avait dit Fonseca après le Real Betis. Il avait dit aujourd'hui, les jeunes ne sont pas prêts pour attaquer un match de Ligue des Champions. Il l'a prouvé. Il a mis une équipe d'expérience en se disant que.
Mais on disait déjà que c'était n'importe quoi hier.
Hein?
On disait déjà que c'était n'importe quoi hier.
Moi, j'étais totalement d'accord. Il a dit, voilà, ça allait être un match d'expérience avec des joueurs, même s'ils sont utilisés à d'autres postes.
Et Mathis de Carvalho, lui, il est prêt pour débuter un match de Ligue des Champions.
Et c'est pour ça que là, tu vois toute l'incohérence. Tu vois toute l'incohérence parce que t'as voulu mettre de l'expérience, mais l'expérience ne remplace pas la qualité sur un match concret, sur un match précis.
Mathis de Carvalho, j'ai pas du tout envie de m'acharner sur lui. Mais ça se voit quand même comme le au milieu de la figure.
C'est l'équivalent d'Akoku à Geoffroy Guichard, déjà avec Fonseca, où le gars, il est balancé comme ça au milieu de terrain dans une zone qui est très importante, et en fait, il est dépassé.
Manchester aussi, ouais, c'est vrai qu'Akoku, il était.
C'est vrai.
Mais Akoku, il avait quand même je fais pas des certitudes, mais il avait un passif en professionnel. Là, Mathis de Carvalho, quand même, il a une grosse vingtaine de matchs, mais il n'y a pas un match ou une prestation où je l'ai vu jouer, je me suis dit, ça valide le fait de le titulariser dans un match aussi important où t'as aucune certitude quelques jours après avoir pris une raclée contre le Betis, là, que c'est un cadeau empoisonné. Donc c'est pas du tout contre le joueur. Mais vraiment, les choix, c'est... J'adore l'entraîneur, mais je me répète, c'est 0 sur 20.
Il y a 7 qui nous dit on n'en peut plus de Fonseca, c'est quoi cette composition, c'est un scandale. Marc-Antoine qui nous dit 9 joueurs à vocation défensive dans la compo de départ contre une équipe qui a pris 8 buts en 2 matchs. Qu'est-ce qui a pris à Fonseca de pondre une telle compo? Qu'est-ce qui se passe? Allons-y sur Fonseca. Il a perdu le mojo, il sait pas où il va dans ce début de saison. Qu'est-ce qui se passe, Adem?
Moi, je pense personnellement qu'en fait, il y a eu énormément de critiques à juste titre contre le Betis Séville. On l'a vu où c'est une équipe qui a tenté de jouer au football quand même. Et je pense que là, il est rentré vraiment dans une mentalité de se dire, comme d'ailleurs l'ont demandé dans beaucoup de médias, moi j'ai entendu beaucoup de gens demander un football sale, quitte à assurer un résultat. Aujourd'hui, on l'a vu. Mais aujourd'hui, je pense que il s'est dit, on va tenter d'assurer le nul avec des joueurs d'expérience, comme vous dites, qui vont essayer de garder le score, de jouer un peu à pieds joints. Je ne sais pas ce qui se met.
Mais Adem, là, le souci, en fait, c'est qu'avec sa composition, moi, le nombre de joueurs à vertu défensive, moi, ça me choque même pas. Mais le problème, c'est qu'avec sa composition, tu n'as même pas les qualités pour jouer les coups, en fait. Le vrai souci, c'est que tu peux même pas jouer les transitions. Quand t'es pressé, tu peux même pas sauter les lignes parce que t'as que Openda en fait qui peut
dans
garder le ballon. Le problème, c'est ça en fait. C'est que c'est même pas une question de système. C'est aussi une question que tu regardes la composition de départ et tu dis, mais en fait, comment tu vas les mettre en danger cette équipe? Comment tu vas jouer les coups? Quelle solution alternative cette composition te propose si ça ne fonctionne pas? T'es obligé de complètement changer son système, donc de faire au moins une batterie de changement avec un certain nombre de changements, j'ai rien compris.
Mais ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est incontestable dans l'évolution tactique de l'Olympique Lyonnais vers son 4-3-3 qu'on envisage. Aujourd'hui, Fonseca, il a laissé entendre clairement que ce n'est pas possible au mois d'août 2026. Pourquoi? Parce que pour différentes raisons, notamment des joueurs qui sont pas encore prêts athlétiquement, qui sont pas encore prêts tout court, il a pas envie d'attaquer ce 4-3. Hier, on était ensemble. Moi, je l'avais dit, Fonseca, il allait revenir sur un Lyon peut-être vintage et qu'il n'allait pas partir en 4-3.
Ouais, mais un vintage avec Tolisso en faux neuf ou Tolisso en 10 n'est pas un vintage avec une bouillie tactique.
Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je le voyais gros comme une maison parce que je savais il allait faire une Fonseca parce que il aime bien faire ça sur ce type de match, une Fonseca, c'est-à-dire sortir quelque chose pour justement maquiller des défauts, mais en essayant de maquiller les défauts,
il a bien caché les qualités là.
Non mais ça ressort parce que à un moment donné tu vas toujours tomber sur Maitland Niles, Mata, cette zone, elle est problématique. Tu as tombé notamment sur la problématique du fait qu'athlétiquement, il y a un problème dans cette équipe. Enfin, aujourd'hui, tu es tombé sur les héritiers de Zatopek. Hein. Ça fait les gars, ça court. Et tu n'as pas été en mesure de répondre athlétiquement. Et dans le standard technique, entre le Real Betis et Sparta Prague, il n'y a même pas une semaine. Tu n'allais pas avoir une équipe qui, techniquement parlant, allait justement être au-dessus de...
Mais justement, à la mi-temps, tu avais 78% de passes réussies pour l'Olympique Lyonnais. À la fin, on arrive à 82%.
Mais 78%, c'est fou.
Mais ouais, surtout et Lyon qui tire plus à l'issue de la rencontre, mais par contre qui s'est créé quand même beaucoup moins d'occasions
Mais dans le standard technique t'es pas là, donne-toi l'occasion d'allonger. En plus t'as les joueurs sur le banc. Donne-toi l'occasion de jouer un football un peu plus basique, un peu plus direct. Je pense que les supporters lyonnais, personne t'en aurait voulu. Mais avec cette composition, tu te fermes toutes les portes.
Mais surtout que moi je trouve personnellement, à titre personnel, qu'il a jamais tenté de rattraper son match. Il fait ses changements à
très tardivement.
75e minute, il fait après les deux buts.
En plus, Adem, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ces changements, ils fonctionnent. Nouama, il obtient des positions de frappe. Fofana a une position de frappe très intéressante que le gardien adverse cafouille.
Après, il y a un élément qui est très important, il y a une illusion qui est liée au résultat. Je veux dire, à partir du moment où le résultat n'est pas encore définitif, n'est pas, entre guillemets, défavorable pour l'Olympique Lyonnais, ils ont eu une balle de 2-0. Ils ont eu une balle de 2-1 sur pénalty. En fait, quelque part, ça l'a conforté dans cette idée.
Mais quand même,
Non, mais t'as failli le gagner quand même ce match. Effectivement.
Je suis d'accord. Mais t'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alertes. Les deux buts hors jeu, l'occasion qui est incroyable, qui est ratée par Mercado. C'est Mercado en première mi-temps qui est sur le reculoir.
Oui, c'est Mercado.
C'est quand même trois avertissements énormes. Avertissement comportement énorme.
Oui, en plus, mais il les fait trop tard, je suis désolé, le changement il fait quand même trop tard. En plus, il garde deux changements. C'est-à-dire qu'il fait que deux changements dans le match. Il laisse Maitland Niles tout le match. Il laisse Tessman tout le match. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi même une cohérence dans les changements. Les changements, oui, ils ont beaucoup apporté, mais t'en as fait que deux, et t'as laissé neuf joueurs qui étaient cramés sous l'intensité de Prague, qui ne pouvaient même pas les aider. Moi, je trouve ça, premièrement, et deuxièmement, pour finir, si vous me permettez.
Vas-y, allez,
on permet.
Pour moi, d'attitude. À un moment donné aussi, les coachs. Ok, le coach. Mais il y a, pour moi, à un moment donné, la grinta, ils l'ont pas eu. Les combats, on s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu, dans tous les duels. Moi, par exemple, un Taliafico, voilà, la grinta argentine, je suis désolé, ça nous aurait pas fait de mal. Des joueurs comme ça qui s'arrachent, au moins tu sais que c'est peut-être pas...
Adem, Taliafico, il t'a pas mal plombé avec un excès de grinta argentine, crève en coupe de... S'il n'est pas là ce soir, c'est aussi parce qu'il en a peut-être un chouïa trop mis.
Et il sera pas là au match retour.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est vrai.
La bouteille a débordé un peu là.
C'est vrai. Mais en fait, des joueurs dans ce style-là, vous voyez, pas autant peut-être.
Oui, j'entends ce que tu dis.
Qui rentrent dedans, qui répondent à l'intensité, parce que techniquement, on a été en dessous, on n'était pas bon, et même dans l'intensité, il n'y a pas un moment dans le match où on a su répondre. Donc moi, j'en veux aussi aux joueurs, dans l'attitude des joueurs, parce que c'est l'attitude aussi. Mais bon.
Adem, merci d'être venu dans l'after.
Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, David Guzman et Elton Mokolo, vous êtes des très très bons consultants. J'aime beaucoup ce que vous faites et votre franc-parler, votre sérénité dans les débats. Donc continuez comme ça, je vous aime beaucoup.
Écoute, merci beaucoup.
T'as toujours le même rib, Adem, c'est bon. Tu n'as pas changé, t'es toujours à la Société Générale.
Société Générale, vas-y, ok. À demain.
Faut que t'en cites une autre, du coup.
Ah, toujours chez BNP aussi. Ouais, attends, t'as changé.
Crédit Agricole, virement instantané.
Salut Adem, merci, à bientôt. On accueille Demba également, beaucoup d'appels des supporters lyonnais au 32-16 qui veulent réagir évidemment après cette défaite de Buzyn, je vous le rappelle, en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'en profite avant d'accueillir Demba pour vous donner les résultats des autres matchs. D'ailleurs, le vainqueur de ce Sparta Prague-Lyon sera opposé au vainqueur de Fenerbahçe-Sturm-Graz. Le match a lieu demain, Fenerbahçe-Sturm-Graz. À 20h. Les autres résultats du soir, l'Union Saint-Gilloise et Bodø/Glimt ont fait match nul 3 partout. Olympiakos NEC Nimeg 0-0. Le Dynamo Zagreb est déjà qualifié quasiment pour les barrages après sa victoire 5-0 face à Žalgiris Kauno, club lituanien. Les Israéliens de Beersheva, de l'Apoel Beersheva, ont battu l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0. La victoire du Levski Sofia face au Karat Almaty 1-0. La surprise, Mjällby, les petits Suédois champions la saison dernière, à la surprise générale, ont été battus sur leur pelouse par le Slovan Bratislava 2-1. Et puis Ararat Armenia, les Arméniens ont battu les Slovènes de Celje 2-1. Voilà donc pour les résultats de ces matchs allés. Donc il y a encore deux matchs demain, Fenerbahçe Sturm-Graz et Horus contre les Azeris de Sabah. Demba avec nous, salut Demba.
Salut Demba.
Salut.
Salut Demba.
Qu'est-ce que tu as envie de nous dire après cette défaite de l'OL?
Moi, j'ai commencé par le positif déjà, c'est ma première, donc merci de m'accueillir. Ça fait 10 ans que vous prenez jamais mon appel.
Ça fait combien de temps, tu dis?
6. Non, c'est faux, je mens.
Non, mais 6 ans, il y a des consignes. C'est ça, Demba.
Parce qu'on peut aller en dire un mot à Maxime, qui est pas très loin de nous, si tu veux, au standard.
Ah ouais, mais je veux le licencier totalement.
Ah non, là, tu vas trop loin.
C'est un peu radical.
Bon, Demba, bienvenue dans l'after en attendant.
Merci beaucoup. Et ouais, quoi dire, bah franchement, je suis pas mal d'accord avec ce intervenant qui était avant. Bah, je mets surtout la défaite malheureusement sur Paolo, parce que ça, ce système-là, quand tu le maîtrises pas, il offre zéro garantie, parce que tu prends deux buts et une ribambelle incroyable d'occasion. T'as l'attitude des joueurs aussi qui était vraiment pas bonne. Franchement, il y a des dossiers qui, des joueurs, j'en ai marre. Tessman, à un moment donné, juste un peu, s'il te plaît. Juste tes pieds, ce qui m'énerve. Là, je veux bien tout ça qu'il soit des fois volontaire, mais les pieds, j'en ai marre. Nathan Knight, j'espère qu'il aura 3 ballons d'or dans sa vie, parce que comment il joue, j'ai l'impression qu'il se prend pour Neymar, et après, il y a une nonchalance, donc j'en ai marre. Et après, bon, ils sont tous passés au travers. Hein. Les seuls points positifs, c'était vraiment que Tolisso...
Ah ouais, Tolisso doit...
Tu trouves que c'est un point positif, Tolisso, ce soir?
Non, pardon, je me suis trompé.
Non, négatif.
Non, point négatif. Donc, non, vraiment, c'est. Il n'y a pas grand chose à tirer. J'espère le retour de Niakate qui va faire du bien pour la personnalité. J'espère le retour, du coup, en pleine forme et pas sur des bouts de match comme ça de Fofana et Nouama, même si ça a été un peu difficile pour eux. Mais bon, ils viennent de revenir, ils doivent revenir.
Demba, hier, on parlait du hall de gare. On se rend compte que peut-être les deux moins performants, c'est aussi deux joueurs qui sont quasiment sur le départ, en tout cas mis sur le marché.
Tu fais référence.
Milton Knight et Tanner Tessman. Est-ce que, à toi, tu penses, ou je m'adresse aussi au plateau, que ça peut avoir aussi, en fait, un impact sur leur performance? Le fait qu'ils ne se sachent pas forcément désirer.
Moi, c'est surtout son utilisation tactique qui est le point le plus important, parce que dans le match contre le Real Betis, l'un des éléments positifs, c'est quand même Tessman dans cet abattage. Et ce soir, il est utilisé à contre-emploi. C'est la première rampe de lancement. Et ça, on sait très bien que c'est pas le meilleur contexte possible pour lui. Tu peux pas ambitionner face à une équipe, même contre le Sparta Prague, d'avoir Tanner Tessman en rampe de lancement, alors que ce n'est pas son rôle habituellement. Et là, on l'a vu à plusieurs reprises sur la première période, il rentre trop de ballons dans des zones chaudes.
Demba, c'est sa première dans l'after, il nous a raccroché en fait. Alors, il a perdu la liaison, mais il est parti.
Oulana a assez dit. Ouais. Bon, écoute,
ouais, il est en train de parler il y a quelques secondes. En
fait. On dit un mot, on parlait de Tolisso, on dit un mot de son péno. Il y a un problème de pénalty cet été après la Coupe du Monde, c'est quand même incroyable.
Par rapport à son raté
sur pénalty à Corentin Tolisso.
Ah oui, ouais.
Il commence dans l'axe et ouais, après il se décale pour prendre sa course d'élan, de travers, revenir, frapper en force.
On a l'impression
que c'est jamais vraiment naturel en
réalité. Exactement, ça respire pas la conviction. T'as aussi le contexte du match. Ça reste un match de troisième tour de Ligue des Champions, mais t'as le contexte du match où il est pas bien, où il subit les événements. Et là, tu vois, il frappe au-dessus et d'ailleurs, tu vois tout de suite sa réaction. Il est pas bien.
Non, surtout que maintenant, on commence à savoir en fait que les gardiens ne sont pas dupes, que les gardiens ne sont quasiment pas plus prendre, que les gardiens prennent, anticipent de moins en moins. Donc franchement, arrêtons. Enfin, je ne vais pas paraphraser en fait tout ce qui a été dit pendant la Coupe du Monde sur il y a que Neymar. Non, il y a pas forcément que Neymar. Mais arrêtons. Enfin, stop.
La conférence de presse de Paulo Fonseca à venir sur RMC. Les réactions également des joueurs et on accueille Loïc qui est au 32-16 avec nous, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Loïc, bienvenue dans l'After.
Ouais, merci. Je voulais ce soir. être sur une voie un peu grave, parce que franchement, ce qui s'est passé ce soir, c'est un des plus gros scandales que j'ai vu sur les deux ou les trois dernières années. Alors, je vais continuer à mettre une pièce dans le jukebox. Hein. Ce soir, Fonseca, c'est entièrement de sa faute, et je vais même aller encore plus loin. On est sur une faute grave, sur quelque chose qui remet limite en cause la manière dont il va devoir entraîner cette équipe cette année. Et est-ce que c'est encore la bonne personne pour l'Olympique Lyonnais?
Tu vas un peu loin, t'es énervé, mais tu vas un peu loin, non?
Bah, avec tout le respect qu'on a laissé pour lui, hein, sincèrement, merci pour tout ce qu'il a fait. Franchement, il nous a ramené au plus haut de ce qu'il a pu faire, en tout cas.
Ouais.
Avec l'effectif qu'il avait un petit peu délicat, avec les dettes, etc. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il fait, désolé, c'est un attentat, sincèrement. Tu joues avec Abner, Vinicius, ailier droit, avec Tolisso, ailier gauche. Est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte de la dinguerie que c'est ou pas?
Tolisso l'a déjà fait. Jouer très haut sur le terrain, il est capable de le faire. Le problème, c'est qu'on est en début de saison et qu'il n'est pas prêt à le faire, peut-être d'un point de vue physique.
Joueur poste, il a déjà joué 8 inversés, en fait, pour profiter de ses angles de passe. Moi, je me pose la question de l'impact que ça peut avoir aussi sur son effectif, en fait, ce genre d'expérimentation. Peut-être pas au niveau de la crédibilité, mais au niveau du nombre de joueurs importants ou qu'il a laissé sur le côté, ça peut aussi, je pense, avoir un impact, en fait, sur son effectif.
Et pour revenir sur ce que disait l'auditeur, encore une fois, on est obligé de le dire, Loïc, sur Fonseca, je fais encore une image de plus dans l'album photo, un album photo qu'on n'a pas envie de voir. C'est Manchester United 2024. Voilà, c'est Saint-Etienne, c'est Celta Vigo, la compo inexplicable avec les 5 défenseurs, c'est Toulouse 2026, c'est Lens l'équipe B, et tout ça, Fonseca, il a cet héritage, il a sur tout cet album photo qui te fait dire que aujourd'hui, quand on parle de Paulo Fonseca, il y a beaucoup plus entre guillemets d'événements qui sont davantage négatifs que positifs.
Il y a le syndrome du personnage principal tactique, en fait, de toujours vouloir avoir ce bon mot tactique, ce changement tactique qui va faire basculer le résultat. Et c'est dommage. Et à la fin, c'est injuste parce que c'est quelqu'un qui a des résultats, Fonseca. C'est quelqu'un qui est apprécié de ses joueurs. C'est quelqu'un
Ça traduit, en fait, quand un entraîneur fait ça, vous l'interprétez comment, en fait? C'est un manque de confiance en lui. C'est un manque de confiance en son équipe. Parce que quand il fait les choses simplement, qu'il met les joueurs à leur poste et les meilleurs à leur poste, ça fonctionne.
Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un contexte qui est très important. On est au mois d'août 2026. Aujourd'hui, il y a très peu de confiance par rapport à l'idée qu'aujourd'hui, le 4-3-3 est le meilleur système pour attaquer un match de Ligue des Champions. Moi, j'avais déjà dit au sortir de la rencontre contre le Real Betis, moi, je me suis dit spontanément, il n'allait pas repartir avec ça parce que ça ne te donne pas de garantie. Et pour moi, ça va être le fil rouge de la saison lyonnaise, l'évolution tactique de cet Olympique Lyonnais, où en fait, l'année dernière, l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe, pour moi, qui brille grâce à ses milieux de terrain. L'expression d'un Tolisso, l'expression d'un Tyler Morton, Narte qui a pu arriver, Schulz qui était certes attaquant, mais qui avait l'âme pour moi d'un milieu de terrain, qui réfléchissait comme un milieu de terrain. Et là, tu vas avoir une nouvelle réalité tactique qui n'est pas forcément évidente.
Il y a quelques pierres dans son jardin, parce qu'il y a quand même une interview hyper intéressante de Tyler Morton où
ce matin, qui dit
moi je suis quand même, je préfère jouer en sentinelle, c'est là où je me sens le mieux.
Et ce soir il joue.
Il joue un poste un peu différent. Il y a aussi, quand je dis perte de confiance du vestiaire, j'extrapole bien évidemment, je dramatise, mais le fait est que comment son équipe de recrutement, qu'est-ce qu'elle doit penser? Il leur offre deux joueurs de provocation sur les couloir. Il a les, c'est quasiment ses deux plus grosses valeurs marchandes qui reviennent de blessure et il joue sans ailier. C'est aussi difficilement compréhensible.
Loïc, bouge pas. Il y a Paulo Fonseca qui arrive en conférence de presse. On va écouter tout de suite ses premières réponses. Paulo Fonseca en conférence de presse après la défaite de l'Olympique Lyonnais 2-1 à Prague.
J'imagine que c'est une déception. Vous avez eu un peu le scénario en votre faveur. Vous avez mené au score. Et après, l'équipe s'est un peu écroulée. Vous n'avez pas su défendre comme il fallait, semble-t-il.
Oui, pour moi, c'est la déception est plus... c'est pas... le résultat, mais je suis plus décisionné avec la prestation défensive de l'équipe, principalement dans le premier temps. Nous pouvons parler du système, mais après le match, je suis sûr que c'était la stratégie meilleure pour ce match, mais je pense que nous n'avons fait pas qu'est-ce qu'on a préparé, et principalement dès le premier temps. Sparta a créé plus d'opportunités dans le premier temps parce que on a difficulté dans notre ligne défensive.
On n'a pas fait ce qui était préparé, nous dit Paulo Fonseca, déçu de la prestation défensive de son équipe lors de la première période. On écoute encore une deuxième réponse. De Paulo Fonseca. Ah ouais, c'est d'abord la traduction d'accord de nos amis tchèques. On rappelle que l'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague lors de ce troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Match retour mardi prochain à 21h à vivre en intégralité sur RMC. Vous maîtrisez le tchèque? Non, ça sert à rien. De toute façon, on a déjà entendu ce qu'a dit Paulo Fonseca, donc déçu par la prestation défensive de son équipe, notamment en première période. Deuxième question. De l'entraîneur à l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Non, toujours pas. On attend toujours la deuxième question pour Paulo Fonseca. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à écouter Paulo Fonseca dans un instant. Voilà, c'est bon. La deuxième question arrive.
Hugo Guillemet de l'équipe. Paulo, tu as parlé justement du système. Tu es convaincu après le match qu'il était le bon. Moi, depuis le bord du terrain, je le dis avec beaucoup de respect pour ton travail, mais j'ai trouvé que ce qui a été préparé a été raté. Le Sparta a vraiment dominé. Ton équipe a semblé peut-être avoir peur de ne pas perdre ce match. En première période, c'est vrai. Mais Georges a dit à la pause que vous n'allez rien changer et vous n'avez pas changé. Après la pause, est-ce qu'il fallait peut-être changer déjà à la mi-temps alors que vous aviez de la chance de mener au score?
Non, le problème n'était pas le système. Le problème était faire bien les choses parce qu'on a commencé le deuxième temps à faire bien les choses. Et on a commencé le deuxième temps à gagner. Nous savons que Sparta a besoin de risquer plus. Mais je pense que le problème n'était pas le système. Mais le problème est qu'est-ce qu'on a fait dans la ligne défensive pour moi. Parce qu'on a préparé les choses bien, mais dans le match, c'était difficile de faire. Et je ne comprends pas pourquoi. Je vais parler avec les joueurs. J'ai parlé dans le mi-temps, mais le problème n'était pas le système.
Voilà ce que nous dit donc Paulo Fonseca. Dans un instant, on continue à écouter la conférence de presse de Paulo Fonseca. Loïc, tu restes avec nous. L'after continue avec David Gluzman, avec Elton Mokolo après la défaite de Lyon à Prague 2-1 lors de ce troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Jérôme Sillon.
L'after jusqu'à minuit avec Elton Mokolo, avec David Gluzman, avec vous les supporters lyonnais au 32-16. L'Olympique Lyonnais qui s'est incliné 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague au troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. On écoute une dernière réponse de Paulo Fonseca en conférence de presse.
Après le dernier match de préparation, pour moi, nous devons choisir les joueurs qui sont plus préparé pour sept matchs. Et aussi, nous n'avons pas d'extérieur pour commencer le match. Nous avons. Mais Kyle, Julien ne sont pas prêts pour commencer un match avec cette dimension. Après, Malik et Ernest, ils ne peuvent pas commencer le match. Ils ne sont pas physiquement prêts pour faire beaucoup de temps. J'ai choisi le système aussi en fonction de les joueurs plus expérimentés que nous avons dans l'équipe. Et, par exemple, nous pouvons parler de Tanner, qui a joué comme défenseur central. Et pour moi, était notre meilleur défenseur central. Et le joueur qui a fait bien les choses.
Voilà donc Paulo Fonseca. Donc à l'issue de cette conférence de presse, on continue d'écouter évidemment pour savoir ce qu'il dit. Mais il justifie donc l'utilisation du système donc avec cinq défenseurs. Il a trouvé que Tesman avait été son meilleur joueur. Il a été déçu en revanche par la prestation défensive. Il dit que le système n'est pas un problème. Loïc est toujours avec nous, supporter de l'OL. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations de Paulo Fonseca, Loïc?
Bah en fait, il y a beaucoup de choses à dire là déjà. Dans un premier temps, je sais même pas si ça vous a sauté aux yeux, aux oreilles en tout cas, mais Fonseca qui parle si bien français depuis le début ce soir, il avait du mal à trouver ses mots. Je pense que sincèrement, ça en dit long sur ce qu'il a pensé du match, sur ce qu'il a pensé de la prestation. Mais dans tous les cas, vous avez tous regardé le match, on a tous regardé le match. Vous doutez bien que à la mi-temps, on s'est tous dit la même chose, qui était de se dire bon, on arrive à la mi-temps, on a eu un but refusé contre nous, on mène. C'est déjà une folie furieuse d'être devant, c'est insensé. À un moment donné, tu vois qu'il y a des trous de partout, tu demandes à des Tesman ou des Ouedraogo, je ne sais pas pourquoi on l'a recruté, sincèrement, c'est un préparateur de commande.
Il paraît qu'il était bon en préparation. Contre le Real Betis, c'est lundi seul qui s'en sort.
C'est facile d'être bon contre des
Non, mais là, en plus, je trouve qu'il n'a pas été aidé par Kluivert.
Même s'il a des loupés, il a des absences.
Il a eu des loupés techniques, notamment en première mi-temps quand il lance très mal Tolisso. Non, mais le condamne pas. Il vient d'un championnat un peu plus faible. À mon sens, ne le condamne pas. Moi, en préparation, j'ai vu des choses très intéressantes.
Oui, c'est sûr, on a regardé sûrement les mêmes matchs de préparation, mais quand tu joues à 11 contre 10 contre une D2 allemande, bien sûr que j'espère quand même que ce mec-là, il va être un petit peu au niveau, qui va sortir des bons centres, qui techniquement il va être un petit peu au-dessus de l'adversaire, ça me paraît quand même un minimum normal. Alors je suis d'accord avec vous, il n'est pas aidé par les centraux, mais c'est quoi cette... il faut s'adapter aux joueurs pour mettre en place un système. Je suis totalement d'accord. Alors dans ce cas, ton système aussi doit s'adapter aux forces de tes défenseurs, et Tesman, Kluivert et justement Ouedraogo, c'est pas les meilleurs techniquement, c'est tes premiers relanceurs, je suis désolé, tu leur demandes de ressentir hyper propre à chaque fois. 4 ou 5 fois, on s'est retrouvé à un doigt de prendre un but. C'est des choses qui doivent corriger.
Mais Loïc, c'est ce qu'on se disait avec Elton. C'est-à-dire que moi, je suis complètement d'accord, en fait, si tu veux, pour ne pas inviter à la pression quand t'as pas forcément l'aisance technique, en tout cas ce soir, pour le faire. Mais t'avais pas les joueurs pour jouer long non plus. Mm-hmm. Et le vrai souci, en fait, il est là. T'avais pas les joueurs pour allonger. Après, moi, il est dans le déni complet, à mon avis, sur le système.
Là, tu sens, il est groggy.
Non, mais il est groggy dans le déni complet. Il aura certainement, en fait, un autre, il peut pas se déjuger non plus aussi rapidement après la rencontre, mais c'est aussi il parle que de Nouama et de Fofana pour ne pas débuter le match, mais pourquoi pas Duranville et pourquoi pas Boudache, en fait.
Il était trop jeune.
Il l'a évoqué, pour le coup il a été totalement cohérent par rapport à ce qu'il disait après le Real Betis. Ce n'était pas un match pour les jeunes, et donc en fait il a voulu s'appuyer sur les joueurs expérimentés pour essayer de limiter la casse, ramener un résultat, sauf que ces joueurs expérimentés n'ont pas réussi leur mission. Elle est là, la réalité. Je note aussi une contradiction sur le fait de dire que c'est pas la faute du système, mais t'es quand même très 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 prompte à attaquer la ligne défensive. Moi, il n'est pas question que de la ligne défensive. Je veux dire par là, quand Karabec et l'autre Rines, si je le prononce bien,
arrière gauche,
ils sont pas attaqués. Il y a le milieu de terrain est régulièrement dépassé. En fait, ta ligne défensive, elle est dans un dilemme. On avance ou on recule. Et quand tu parles notamment de joueurs qui sont pas forcément les plus expérimentés, Ouedraogo, et que d'un côté t'as Tesman qui est dans une formation expérimentale, dans un rôle qu'il ne connaît pas forcément, qu'est-ce que tu peux leur demander de plus ?
Loïc, merci.
Merci Loïc.
Merci à vous. En tout cas, j'en aurais tellement de choses à dire sincèrement pour ce match. C'est la première d'une série qui, j'ai l'impression, va être va être plutôt compliqué. Rendez-vous dans 8 jours.
Mais condamne pas trop vite Ouédraogo. J'ai trouvé
non,
dur.
Non, bah, je le condamne pas forcément. Mais aujourd'hui, dans la hiérarchie, quand t'as vu ces matchs-là, je suis désolé, je préfère encore un Tagliafico ou un.
Non, on est d'accord. De toute façon, il était parvenu de vacances, c'était suspendu. Mais
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans un mois, Ouédraogo, il aura encore du temps de jeu? Sincèrement, peut-être pour faire tourner contre des petites équipes.
Tagliafico sera plus là.
Tagliafico sera plus là. Ce sera lui ou Abner. En fait, je pense que c'est les deux solutions envisagées.
Ouais. Vous êtes sûr que Tagliafico sera plus là?
Ah, a priori, en tout cas, le Lyon souhaite s'en séparer, ouais, parce qu'il a un gros salaire. Et exactement. Puis, je crois que lui aussi a peut-être envie de découvrir autre chose, surfer sur sa belle Coupe du Monde.
Bah, s'il pouvait prendre un ou deux joueurs avec lui, ça serait pas mal. Hein.
Lesquels?
Tu fais référence à qui?
Non, mais j'ai pas envie d'être dur encore une fois.
Vas-y, maintenant t'es lancé.
Mais voilà, malheureusement, je suis désolé, on parle d'expérience, il parle d'expérience, il dit que c'est pas un match pour les jeunes, mais De Carvalho aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas le profil qu'il nous fallait au milieu de terrain.
Je suis d'accord.
Des mecs comme Mangala ou Narte qui pouvaient largement prendre la place au milieu. Je suis désolé, Tessman, c'est l'expérience, ça fait, il a un an et demi au plus haut niveau. Avant, il faisait du football américain. On l'a quand même suffisamment critiqué. Voilà, l'expérience, ça donne, enfin, la vieillesse, en tout cas, ne donne pas forcément, gage de satisfaction obligatoire. J'aurais préféré sincèrement ce soir voir le petit Noam Kamara même jouer un petit bout de match ou même Kango à la place de Maitland Niles et celui en tout cas dont lequel vous avez pas forcément parlé et qui me dérange qu'il ait même pas joué une seule minute, c'est Rémi Imbert, parce que le mec a fait quand même uniquement deux remplacements en ayant commencé ce match.
Ouais, mais c'est le choix des remplaçants en fait qui condamne un peu parce que c'était un peu le cinquième joueur offensif et Openda a été intéressant, donc c'est difficile de faire sortir Openda aussi.
Il tombe sur le fait qu'Openda.
Les gars, je suis le seul à penser que Greif a été un peu en dessous de ce qu'il est capable
de
faire.
D'abord, je remercie Loïc. À bientôt, Loïc. Ouais, tu peux rappeler évidemment. N'hésite pas. On reparlera de l'OL évidemment de très nombreuses fois et notamment en vue du match de mardi. Évidemment, on peut dire effectivement un petit mot de Greif avant d'accueillir Romain.
Moi, je
l'ai trouvé rassurant dans un premier temps parce qu'il capte des ballons et j'aime les gardiens qui captent les ballons dans une génération de gardiens qui ne fait que des claquettes, donc ça je trouvais ça bien, mais effectivement il y a sur la fin du match on peut pas dire qu'il soit non plus totalement décisif. Après je trouve pas que ce soit le maillon faible.
Non, pas le maillon faible, mais en fait moi je m'attendais à justement quand le bateau tangue, que ce soit comme il a été régulièrement la saison dernière, vraiment le maillon fort, un élément très fort pour moi. Il était top 3 gardien de Ligue 1 l'année dernière en tout cas sur ses prestations, et là en fait dès qu'il y a un petit il y a un petit grain de sable qui fait dérailler la mécanique, je trouve qu'il perd un peu en confiance et il a du mal en fait à relever la tête après une erreur. Et après son premier but, j'ai trouvé encore plus hésitant dans les sorties, encore plus hésitant dans le jeu au pied, là où il aurait peut-être dû gonfler le but.
C'est le tournant de son match, parce qu'il faut recontextualiser, l'égalisation où il est quand même incriminé arrive après un sauvetage qu'il avait effectué.
Sur la tête, ouais.
En fait, il passe du tout au tout, à savoir, il est le héros sur une action où il fait un arrêt qui est très important, et derrière il prend un but où sa responsabilité elle est engagée. Et là on est dans un contexte où en fait son équipe elle est dans la machine à laver et lui il est submergé à la fin.
Romain est avec nous également, supporter de l'OL. Salut Romain.
Salut
Romain.
Salut Romain.
Premier passage dans l'after, je vois ça Romain.
Yes, premier passage. Merci à tous. Écoutez, moi je pour moi c'est 100% contre ces cas, hein. Je vous entends parler de choix de joueurs, de il fallait mettre ci, il fallait mettre ça. Écoutez, moi, la gestion de l'équipe, la gestion de la prépa, on n'y était pas. Fofana, Boudache ou n'importe qui durant vide, ils sont pas au niveau physiquement. Ils jouent pas, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, en revanche, c'est l'attitude des gars, quoi. Il y a un moment, c'est de la responsabilité du coach d'impliquer les joueurs et de leur faire comprendre que face au Sparta, face à une équipe aussi faible que ça, une attitude offensive et une attitude conquérante suffit, en fait. Elle aurait suffi à faire la différence sur ce match-là, parce que c'était faible en face. On m'enlèvera pas ça de l'idée, c'était faible en face. Et en fait, simplement une attitude offensive, une compo un peu plus engageante, et sans parler du choix de joueur, mais ne serait-ce qu'une mentalité un peu plus conquérante, ça aurait suffi. Et en fait, c'est ça le problème de Fonseca, c'est que le mec, en Coupe d'Europe, match aller-retour, il n'y arrive pas, il a peur. C'est de la peur, en fait. C'est de la peur. Et il insuffle la peur auprès de son effectif. Et ça va pas. Et en fait, on s'en sortira pas. Donc, peut-être qu'on va faire l'exploit. J'en pousse très fortement.
Alors, on va essayer quand même, Romain, on va essayer quand même de trouver des points positifs là. On va terminer sur l'Olympique lyonnais.
Il y a pas.
Bah si, regarde, on n'a pas parlé d'Openda justement. C'était l'un des points que voulait aborder David.
Openda a couru. Effectivement, il a couru, s'est battu, c'est très bien. Il a provoqué un penalty. Mais en revanche, dans le petit jeu, on l'a pas vu. dans le jeu associatif, moi je sais pas. Moi,
c'est, ouais, mais c'est facilité
complètement. Oui, parce qu'il avait sevré le ballon.
Il était complètement coupé. C'est deux relais techniques les plus proches
qui est dans son île.
C'était censé être Tolisso et Abner. Non, moi, Openda, je trouve qu'il a bonifié, en fait. Il a maximisé tout ce qu'il a eu.
Et d'ailleurs, tu remarqueras sur l'action du pénalty, c'est consécutif à une séquence de possession de balle où on le touche.
Exactement. Et surtout qu'on sait qu'il est très fort sur les petits appuis, dans les petits espaces. Il essaie en pour s'enrouler autour du défenseur. Moi, si tu me le permets, le rayon de soleil, ce serait peut-être les 15 dernières minutes et un retour à un système un peu plus conventionnel qui va peut-être encourager, certainement même encourager Fonseca à revenir à un côté traditionnel dans des choix un peu plus traditionnels dans sa composition.
Romain, quelle équipe tu attends justement pour le match retour?
Sauf que le Sparta va au match retour, on va y revenir forcément, on va partir en 4-3-3, on va mettre Fofana, Nouama, même s'ils sont pas en jambes. Mais le problème, c'est qu'ils vont nous attendre comme ça. Et moi, je suis pas certain qu'on ait ce qu'il faut dans les jambes pour faire la différence. Enfin, avec un milieu à ce niveau-là, avec Tolisso à ce niveau-là, moi, je suis pas certain qu'on ait ce qu'il faut.
Avec Niakate en défense centrale, avec Openda, avec ton trio d'attaque Nouama, Openda, Fofana, avec un Tolisso, Morton et un troisième joueur au milieu de terrain, il me semble que tu as quand même moyen de passer, non?
Va falloir bosser cette semaine parce que là on part de loin.
Oh non, mais c'est ce qu'ils vont faire. Enfin, je pense que tu peux relancer Narté derrière l'attaquant. T'as plusieurs.
On a des joueurs, mais moi je suis pas sûr qu'en fait, sur ce genre de confrontation comme ça aller-retour, le premier match est quand même très important. Et là, fallait insuffler autre chose. Fallait qu'on sorte vainqueur ou au moins avec un nul. Et là, on va courir derrière le score. Je nous vois déjà à domicile courir après le score, rater des occasions. Enfin, je le vois gros comme une maison, ce match.
Bah, disons que t'as vu qu'en transition, vous avez deux joueurs, Mercado, Alcocer, qui pouvaient te faire très mal.
Ah ouais, eux, c'est des merdiers à leur niveau.
Ah vraiment. Et le cousin devant et là, une planche, bah,
c'est du match.
Ça va être pénible, je vous raconte pas. Et on verra, mais bon, moi je suis très déçu.
Tu vas au match ou pas le mardi prochain,
moi? Non, moi je suis à Paris, je non.
Bon, il y a le TGV, hein, c'est pas interdit.
Pardon?
Il y a le TGV, je dis c'est pas interdit.
Oui, il y a le TGV, c'est vrai, c'est pas interdit, mais non, pour le coup, non. Mais non, je serai pas au match, mais on verra ça, évidemment, mais bon. Je suis un peu inquiet quand même. Hein. Franchement, je vous cache pas.
Bon, Romain, en tout cas, je te félicite pour ton premier passage dans l'after. Franchement, pas du tout intimidé. Voilà, t'es le bienvenu. N'hésite pas, rappelle-nous.
Merci, Romain.
Merci beaucoup. C'est Romain.
À bientôt. Et puis, je voulais terminer par ce petit message sur WhatsApp d'LM qui nous dit calmons-nous. L'an dernier, Lyon était pratiquement en Ligue 2.
Ah non, mais
donc voilà,
non,
aussi,
Jérôme,
je suis le premier à rappeler.
Les gars, je fais que lire les messages.
Hélène. Non, mais moi, je suis le premier à le rappeler en plus. Hier encore, enfin, on a échangé avec Elton où il nous disait que c'était le tournant de la saison. Ok, d'accord, mais on va quand même pas le rappeler à chaque fois, à chaque désillusion. Okay.
Non, et puis c'est quand même dommage de terminer 4e de Ligue 1 pour prendre une telle prestation comme ça sur un 3e tour préliminaire. Allez, on espère voir un autre Olympique Lyonnais donc dans une semaine. Match retour à vivre en intégralité, 21h mardi prochain sur RMC, bien évidemment. L'after continue jusqu'à minuit. On parle de l'économie de la Ligue 1. La Ligue 1 court-elle à la catastrophe dans un instant? On aura également le directeur sportif de la JO Auxerre à 23h pour parler des ambitions auxerroises et puis toute l'actualité du Mercato et des Girondins de Bordeaux à venir. Voilà le programme dans l'after avec vous, bien sûr, au 32-16 et puis la suite des réactions après la défaite de Lyon. Donc, 2-1 au match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions sur la pelouse du Sparta Prague. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
L'after jusqu'à minuit avec Elton Mokolo, avec David Glusman, avec vous au 32-16. Lyon a perdu 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague en match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. On y reviendra, on essaiera d'écouter d'autres réactions d'ici la fin de l'after. Parlons Ligue 1. La Ligue 1 court-elle à la catastrophe parce qu'on est très loin du milliard d'euros promis en droit télé en 2018. Cette saison 2026-2027, les clubs de Ligue 1 vont toucher au total 184 millions d'euros nets. Donc une fois que tout aura été retiré, un manque à gagner évidemment colossal. On va essayer d'en dire un petit mot avec toi David et toutes tes connaissances bien sûr sur l'aspect économique de la Ligue 1. Mais première question, est-ce que la Ligue 1 court à la catastrophe cette saison?
Non, la catastrophe non, il ne faut pas non plus être trop catastrophiste dans le sens où alors il y a plusieurs sous-divisions dans la Ligue 1, il y a plusieurs castes dans la Ligue 1, mais il y a surtout en Ligue 1 des clubs qui bénéficient de mécènes, donc d'actionnaires capables d'absorber ce manque à gagner et donc les pertes relativement colossales qui en découlent. Et les clubs, moi je pense à Brest, et c'est Brest en fait qui me vient en premier lieu, qui malheureusement sont plafonnés dans leur réussite. C'est-à-dire que cette manne, ce trésor de la Ligue des Champions, qui est quasiment 60 millions d'euros pour Brest, c'est quatre fois ce qui touchait en droit télé, en vitesse de croisière en 2022-2023. Il est complètement mangé par l'incurie et par l'incompétence de Vincent Labrune. C'est pour ça que quand Vincent Labrune, après chaque victoire en Ligue des Champions, nous fait son tweet habituel, mais en plus avec Elton, on avait changé des messages. On s'est dit, quand est-ce qu'il va nous la faire, Vincent? Il va attendre combien de temps? 12 heures ou 24 heures? Le foot français va parfaitement? Non! Parce qu'en fait, ça pénalise ceux qui travaillent le mieux. Ceux qui font énormément avec quasiment rien. Et moi, quand je vois qu'un Brest n'a pas encore pu recruter à titre onéreux, ne sait pas ce qu'il va faire de sa fin de contrat en un an, de Romain Del Castillo, de Ludovic Ajorc, quand je vois qu'un club comme Le Havre n'a quasiment pas recruté à titre onéreux depuis 3 ans, qu'Esteban Le Poll, 150 000 euros, et le deuxième plus gros transfert du SCO d'Angers, qui travaille admirablement depuis 3 ans, bah, je peux pas me dire en fait que la situation est juste. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent. Comme dans toutes les crises économiques, ce sont les moins bien lotis ou les moins bien aidés qui trinquent. Et je trouve ça absolument injuste. Donc il n'y a pas de risque de solvabilité, de faillite, parce qu'on a aussi une DNCG qui fait très bien son travail, et ça il faut le mettre en avant. Mais non, la situation n'est pas rose, et surtout pour les élèves les plus méritants.
Alors tu parlais de caste. Si on classe les clubs de Ligue 1 aujourd'hui, tu nous donnes les noms. Il y a le PSG qui est tout en haut dans sa case, et puis les autres?
Oui, mais alors le PSG est tout en haut parce que le PSG de toute façon maintenant se compare aux plus grands clubs européens, et non plus essentiellement grâce à son actionnaire qatari qui a bien été là pour amorcer la pompe, mais maintenant ils ont développé une marque absolument extraordinaire. Je pense que le PSG, dans 2-3 ans, ça va taper le milliard d'euros de chiffre d'affaires de façon pérenne, et même plus grâce au transfert qatari. Mais après, tu as des clubs qui bénéficient de mécènes. Strasbourg, même si les investissements ont été réduits, notamment de par le contrôle de l'UEFA, bénéficie d'un mécène. Le Paris FC bénéficie d'un mécène. Franck McCourt, même si il a décidé de moins remettre au pot, il a quand même injecté 750 millions d'euros. Monaco, Nice, c'est des clubs où les comptes courants d'actionnaires sont plus à plus de 100 millions d'euros. Rennes, quand je dis que Rennes doit gagner une Coupe d'Europe, peut-être pas la plus grande, mais doit gagner une Coupe d'Europe, quand je dis qu'il y a tous les atouts à Rennes pour réussir, c'est parce que tu as un actionnaire qui est ultra généreux, bien évidemment, qui vend énormément. Mais dès qu'il y a un décalage dans le plan de trésorerie, dès qu'il y a une demi-saison un peu plus décevante, l'actionnaire réinjecte. Donc ces clubs-là, ils font partie d'une caste complètement différente du Havre, de Brest, d'Angers, du Mans, qui a recruté beaucoup, mais pas encore à titre onéreux. Donc oui, nous sommes dans une Ligue 1 à 2 voire 3 vitesses.
La Ligue 1, quant-elle, à la catastrophe, avant de détailler peut-être ce qui pourrait permettre aux clubs de Ligue 1 de se développer, Elton?
Non, mais tu le vois à travers l'activité des clubs sur le marché des transferts. Marseille, PFC, Rennes, 3 clubs détenus par les mécènes. Marseille, c'est encore un cas à part dans la mesure où c'est des prêts d'options d'achat obligatoires qui ont été activés sur l'été 2026. Je vais te donner exemple Rennes que vient d'évoquer David. Ils ont déjà fait 8 recrues. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est utopique pour la plupart des clubs de Ligue 1. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce football de caste, aujourd'hui, c'est difficile de suivre. Quant à la première question, j'irai pas jusque là parce que il y a aussi des moyens de t'en sortir, il y a aussi des moyens de te réinventer à travers notamment la performance sportive.
Mais surtout que Rennes, attends, il y a 2 recrues, moi, sur lesquelles j'aimerais insister. C'est Cresswell, où ils vont regarder les yeux dans les yeux le vainqueur de la Conference League, Crystal Palace, qui a installé depuis quasiment une décennie en Première League, et ils vont sortir le petit Mayenda de Sunderland.
Exactement.
À plus de 20 millions d'euros. C'est un joueur qui aurait pu trouver une porte de sortie en très haute championship ou en Première League, et il vient à Rennes. Et moi, il y a aussi quelque chose que j'aimerais mentionner, c'est tout, cette légende, comme quoi, oh, mais De façon, sans droit télé, les clubs peuvent s'en sortir. Ils ont qu'à développer leurs ressources. Mais je vais un peu avoir un langage de propriétaire de franchise américain. Mais il y a aussi une question de marché. Quand on parle de sponsoring, mais quand on a le marché brestois, avec la constellation de clubs en Bretagne, le marché d'Angers, qui est un peu géographiquement enclavé entre plusieurs clubs, entre Nantes, entre Paris, entre Le Mans. Mais c'est pas facile de développer le sponsoring. Donc, tous les grands donneurs de leçons du Yaka Faucon, de dire, ah, il n'y a plus de droit télé. Il faut aller développer les ressources annexes. Mais ils le font. Mais ça prend du temps.
Et la billetterie, ça peut être un levier aussi, la billetterie?
Bah, la billetterie, ça peut être un levier. Mais, tu sais que notre taux de fréquentation est bon. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pénalises tes supporters les plus fidèles en augmentant le prix des abonnements. On voit que, par exemple, l'augmentation de la billetterie, ça peut se faire via des créations de nouveaux stades, comme à Brest, ou de développer les hospitalités. Mais quand on développe les hospitalités, donc tout ce qui est loge, c'est aussi au détriment du football populaire, des supporters qui seront un peu exclus financièrement de nos tribunes. Donc, est-ce qu'on a aussi envie socialement de le faire? Je sais qu'un propriétaire comme Joseph Ogourlian doute du bienfait à long terme d'augmenter le prix dans son stade et d'exclure dans un club si populaire toute une frange de la population.
Alors, il y a un débat qui va revenir et qui est un débat qui est en train d'agiter les clubs français cet été, c'est les fameux droits télé pour les clubs européens. Il y a un différentiel de 50 millions d'euros entre les clubs qui reçoivent une manne de droits télé européens et les autres. Est-ce qu'il faut revoir la répartition de cette manne? Est-ce qu'il faut par exemple envisager, Elton, que la somme qui est récoltée, qui est donnée aux clubs européens, soit répartie également pour tous les autres?
Je suis totalement d'accord là-dessus, parce que moi j'ai pas envie qu'il y ait une scission, j'ai pas envie qu'il y ait une caste. Alors j'entends notamment cette idée de récompenser les clubs qui vont en Europe, et moi j'étais présent à Radio France quand Vincent Labrune avait exposé ce plan-là, notamment pour entre guillemets récompenser les bons élèves. Mais maintenant il y a un contexte économique qui est très compliqué, et moi à partir de ce contexte économique, on doit avoir une répartition qui touche notamment tous les clubs de Ligue 1 dans ce contexte qui est difficile.
De toute façon, la théorie des locomotives, en fait, de Vincent Labrune ne fonctionne pas, n'a jamais marché nulle part. La théorie du ruissellement non plus. Le problème des locomotives, c'est qu'il y a une locomotive qui est partie devant et qui des wagons qui sont restés en gare. Moi, j'irais même encore plus loin. Alors, il y a une première bonne avancée, c'est la loi Savin-Lafont qui a décidé de réduire la clé de répartition de 1 à 3 entre le mieux et le plus mal doté. Mais moi, j'irais encore plus loin. Alors, capitaliste, banquier, tout ce que vous voulez, mais conscient de l'importance de garder une compétitivité, je créerais même une taxe sur les revenus européens qui serait pas forcément pénalisante, pas un taux forcément pénalisant, que je ne reverserais même pas aux clubs de Ligue 1, mais aux clubs de Ligue 2 et de Ligue 3, parce que c'est la pyramide qui est importante. Les clubs de Ligue 2 vont toucher en droit télé grand maximum 500 000 euros. Chambly, quand ils étaient en Ligue 2, ils prenaient 4 millions 2. Donc c'est 9 fois moins. Donc ces clubs, c'est cette pyramide qu'il faut sauvegarder. C'est cette pyramide qu'il faut sauver. Et les clubs de Ligue 1, de toute façon, ils s'y retrouveront. Parce qu'ils auront des joueurs mieux formés, ils auront des clubs plus compétitifs. C'est aussi cette pyramide qui peut sauver. Donc moi, la création de cette taxe, elle va faire bondir Olivier Létang, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Brian Priske, l'entraîneur du Spartak Prague. Mais ça va certainement faire bondir les clubs qui se qualifient en Coupe d'Europe. Mais j'ai envie de leur dire, pensez collectif, les gars.
Ligue 1 Plus semble avoir résisté cet été, conservé une grande partie de ses abonnés. Est-ce que cette chaîne peut servir l'économie du foot français, ou est-ce que c'est juste un moindre mal et le temps d'attendre qu'un nouveau diffuseur arrive?
C'est pas un choix, c'est une obligation en fait. Ligue 1 Plus, je pense que personne en fait n'a décidé de ne plus avoir de minimum garantie. Je pense que si demain un opérateur comme Canal, avec sa plateforme MyCanal, arrive et dit écoutez, on se met autour d'une table, c'est 350 millions d'euros garantie, je pense que tout le monde danse la carmagnole et fait des saltos arrière. Ligue 1 Plus, c'est un super produit. Moi, je trouve que c'est un superbe produit, mais qui ne rapporte quasiment rien. Et encore, ils ont dépassé les attentes en niveau en termes d'abonnement. Moi, je veux bien en fait que les Français fasse preuve de patriotisme, mais pour arriver ne serait-ce qu'au niveau de redistribution nette de DAZN, il faudrait qu'on ait plus de 3 millions d'abonnés. Donc là, on est difficilement au-dessus du million. C'est une super plateforme qui rapporte ce qu'elle peut rapporter, mais je pense qu'il y a un plafond de verre malheureusement.
Et en attendant, les clubs français ont déjà vendu avec une balance donc de transfert négative de plus de 300 millions d'euros et on n'est que le 4 août. Donc pour les clubs français, même si le PSG n'a pas encore sorti le carnet de chèques.
Ils sont pas encore activés parce qu'ils sont même pas dans le top 4 des clubs les plus acheteurs.
Bah, j'ai regardé en fait le nombre, j'ai fait la chronologie pour préparer l'émission du nombre de clubs qui n'avaient pas recruté à titre onéreux.
C'est ça.
Et il y a le PSG, donc je me suis dit
donc il faut encore un petit peu attendre pour faire le bilan de tout ça. Évidemment, on va surveiller tout ce qu'il va se passer dans l'économie des clubs français d'ici la fin de l'été. Dans un instant, David Ventier sera avec nous, le directeur sportif de la JOCR. On va faire le point sur les ambitions de la JA cette saison. Et puis, on parlera également de toute l'actualité du mercato, l'actu hors mercato aussi, parce qu'il s'est encore passé des choses autour de la FIFA et de Gianni Infantino avec des prises de parole importantes, notamment d'Arsène Wenger et du numéro 2 de la FIFA. Et puis, le sauvetage des Girondins de Bordeaux. Voilà le programme jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.